Deutsche Welle. L'Afrique en débat.
Bonjour et bienvenue dans l'Afrique en débat de ce dimanche 11 août 2013, dimanche d'élection au Mali où l'on vote pour le second tour de la présidentielle avec le face-à-face Ibrahim Boubacar Keïta Soumaïla Cissé. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, dans ce numéro de l'Afrique en débat, il sera surtout question des élections générales du 31 juillet dernier au Zimbabwe avec l'écrasante victoire de la ZANU-PF de Robert Mugabe, une victoire que conteste le MDC de Morgan Tsvangirai. Pour en parler en ligne avec nous de Johannesburg, en Afrique du Sud, Claude Kabemba, spécialiste de l'Afrique australe. Monsieur Claude Kabemba, bonjour.
Bonjour Ibrahim, merci de m'avoir.
Voilà, merci également à vous d'être en ligne avec nous, en studio avec moi pour cette émission. Bob Barry et Carole Assignon, deux confrères de la rédaction francophone de la Deutsche Welle. Bonjour Carole.
Bonjour Georges Ibrahim.
Bonjour Bob.
Bonjour Georges Ibrahim.
Les secrets des sorciers noirs, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier le professeur burkinabé Vincent Ouattara, un livre sur l'existence des forces visibles et invisibles dans les sociétés africaines. Et pour en parler, Abelinda Ebinda Ngboko sera avec l'auteur de cette publication. Également dans cette Afrique en débat, le coup de gueule de Khalilou Diagana, l'Afrique de toutes les croyances religieuses, mais aussi des multiples conflits, notamment interethniques. L'Afrique en débat, nous sommes ensemble pour 25 minutes. À ce micro, Georges Ibrahim Tounkara. Alors tout d'abord, un mot sur la Côte d'Ivoire avec la liberté provisoire accordée en début de semaine à une dizaine de membres du FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, un geste de crispation. Carole Seigneur, c'est comme ça que cette libération a été perçue en Côte d'Ivoire et ailleurs. Vous, à votre avis, c'est aussi un geste de crispation?
C'est vrai, la libération de ces 14 personnalités proches de l'ancien président Laurent Gbagbo a été saluée par la classe politique, notamment en Côte d'Ivoire, mais il y a quand même lieu de s'interroger sur leur statut, puisqu'ils ont été libérés à la veille de la célébration de l'indépendance du pays. Finalement, on se demande si ces prisonniers sont des prisonniers politiques ou des prisonniers de droit commun. Et justement, au sein de certaines organisations de la société civile en Côte d'Ivoire, on s'interroge sur le sujet, notamment au niveau du mouvement ivoirien de défense des droits de l'homme. On se demande, il faudrait quand même clarifier leur position et savoir exactement à quoi on a affaire. Bien sûr, le fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, se dit prêt à collaborer, à intervenir au niveau de la réconciliation. Mais il y a plusieurs interrogations qui restent encore posées.
Monsieur Claude Kabemba, vous êtes en Afrique du Sud, un pays qui a connu l'apartheid, qui a connu des crises graves et qui poursuit toujours son processus de réconciliation. En Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de réconciliation nationale. Alors, comment concilier justice et réconciliation?
Une société qui sort d'une instabilité, d'une guerre. Donc c'est important pour toute société de passer par la réconciliation, mais une réconciliation sans justice, c'est aussi problématique. J'espère que les Ivoiriens, dans cette réconciliation, vont chercher à connaître la vérité et faire de sorte que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire n'arrive plus jamais.
La semaine a été aussi marquée par le retour au Burundi de l'opposant Agathon Rwasa. Ce retour, Bob, comment il est perçu sur place?
Je pense que dans le camp de l'opposition, on est assez content quand même de voir que le principal opposant au régime de Bujumbura réapparaisse, parce qu'il avait quand même disparu, il était rentré dans la clandestinité depuis plus de 3 ans. C'est bien qu'il y ait, avec cette réapparition, un nouveau débat politique au Burundi, parce qu'on avait à un moment donné l'impression que c'est seulement le parti au pouvoir qui avait tous les leviers du pouvoir, qui écrasait tout le monde, et il y a eu des attentats à Bujumbura et dans la périphérie de la capitale burundaise. Des attentats attribués très souvent à des éléments liés à Agathon Rwasa.
On se retrouve dans une poignée de secondes pour parler du Zimbabwe.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Vent de contestation donc au Zimbabwe après la victoire de la ZANU-PF aux élections générales du 31 juillet dernier. Âgé de 89 ans, Robert Mugabe a été réélu avec 61% des voix au premier tour contre 34% pour son ex-premier ministre et opposant Morgan Tsvangirai selon les chiffres officiels. Le parti présidentiel, la ZANU-PF, a aussi obtenu la majorité écrasante au Parlement. Mais seulement, voilà, le MDC, le Mouvement pour le Changement Démocratique, le parti de Morgan Tsvangirai, rejette tous ces résultats et crie à la fraude, alors que les observateurs de la SADC et de l'Union africaine assurent que les élections se sont globalement bien déroulées. On écoute l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, chef de la mission d'observateurs de l'Union africaine.
Je n'ai jamais vu une élection parfaite. D'après ce que nous avons pu observer jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, il y a des incidents qui se sont produits. Il y a des incidents qui confinent à une violation de la loi, mais globalement, nous ne pensons pas que ces incidents altèrent ces élections au point qu'elles ne représentent plus la volonté populaire.
Voilà, c'était donc le satisfecit de Olusegun Obasanjo face à ces élections qui viennent de se dérouler au Zimbabwe. Monsieur Claude Kabemba, peut-on dire que ces élections ont été véritablement libres et transparentes?
Les élections ont été libres, du point de vue quand on compare avec les élections passées. La liberté, c'est-à-dire que le peuple zimbabwéen, tout celui qui était à l'âge de voter et qui était en ligne, qui était inscrit pour voter, a pu voter dans le calme. Mais l'autre partie, compte tenu de problèmes tout au long du processus démocratique avant les élections, là où il y a eu beaucoup de problèmes de transparence dans les processus, c'est à ce niveau-là que ça soulève un peu de problèmes. La liste des électeurs n'a pas été publiée avant les élections. Le parti de Morgan Tsvangirai pense que le fait qu'on n'a pas publié, c'est-à-dire que la commission électorale cachait quelque chose, et c'est sur ce point-là, je pense que qu'ils sont en train de rejeter les résultats des élections.
Alors Bob, est-ce que les conditions d'un scrutin crédible étaient vraiment réunies au Zimbabwe?
Je ne suis pas sûr parce que vous voyez, il y a le Zimbabwe Election Support Network, donc qui est une organisation indépendante, qui estime que 750 000 électeurs zimbabwéens n'ont pas pu voter. Sur les listes électorales, ces personnes ou ces électeurs n'ont pas pu retrouver leur nom. Les listes électorales n'étant pas affichées quelques jours avant le scrutin.
Les listes ont été affichées à la veille du scrutin.
À la veille du scrutin, donc il y avait des difficultés pour les électeurs de rechercher leur nom, de trouver leur nom et de savoir dans quel bureau de vote ils devraient voter. C'était ça un peu, j'ai l'impression, la manipulation du vote qui a été cette fois-ci faite par l'administration zimbabwéenne. Il y a eu beaucoup de personnes, soit qui n'ont pas pu voter, mais il y avait beaucoup de noms sur les listes électorales des personnes âgées ou des personnes qui étaient décédées et dont on a remplacé par d'autres militants de la ZANU-PF, les observateurs de l'Union africaine ou des Africains qui étaient sur place n'ont pas pu déceler effectivement ces différents dérapages qui finalement ont conduit à ce qu'on a vu, à une victoire éclatante
de la ZANU-PF.
De la ZANU-PF, ce qui est quand même un peu surprenant.
Carole Assignon, votre regard sur ces élections qui viennent de se dérouler au Zimbabwe, votre jugement, votre analyse là-dessus?
Disons qu'au-delà de toutes les anomalies qui ont été relevées, il faut également dire qu'il y a déjà au sein de la commission électorale même un certain malaise, puisque après ces élections, on a vu deux membres de la commission qui se sont retirés. Ils ne se sont pas prononcés sur le résultat en tant que tel, mais quant à l'organisation même du scrutin, ce sont les raisons qu'ils ont évoquées pour se retirer de la commission. Maintenant, est-ce que c'est dû à tout ce qui s'est passé? On ne sait pas exactement, mais au-delà de ça, je dirais que même déjà au sein du MDC, il y a des critiques qui sont formulées en ce qui concerne leur participation même à un scrutin qu'ils savaient mal préparé, qu'ils savaient organiser un peu dans la précipitation.
Le MDC demandé le report de ces élections.
De ce scrutin, mais finalement, ils y sont allés. Finalement, pourquoi ils n'ont pas boycotté? Il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet également.
Justement, ces interrogations, nous allons les poser à M. Claude Kabemba. M. Claude Kabemba, pourquoi le MDC a-t-il accepté d'aller à ces élections, sachant que les conditions d'un scrutin transparent n'étaient pas réunies?
Bon, écoutez, ces élections ici n'ont pas été préparées, ont été planifiées pendant très longtemps, c'est-à-dire, ou du moins, la discussion sur la date des élections a été discutée, combattue, et finalement, les élections ont eu lieu. Donc, le parti de Morgan Tsvangirai n'a pas... Le problème, moi, je pense qu'ils étaient dans un gouvernement d'union nationale. Ils se sont beaucoup plus... contenter de gouverner que de préparer les élections. Vous vous rendrez compte que la date de 31 était discutée et puis Tsvangirai est même allé au niveau de la SADC pour essayer de qu'on rejette la date parce que pour lui, les conditions n'étaient pas encore prêtes pour organiser ces élections. Mais la justice au Zimbabwe a pu maintenir la date et les élections ont eu lieu selon la loi au Zimbabwe. Mais il faudrait dire que certainement même la ZANU-PF elle-même n'était pas tellement bien préparée pour ces élections, parce que tout le monde ne savait pas si les élections auront lieu. Mais surtout, le parti de Moken Tsangira était dans des conditions assez difficiles, parce que eux s'attendaient à ce qu'on puisse prolonger la date des élections, et ce qui n'était pas fait. Ils étaient coincés à aller aux élections, parce que au fait, le gouvernement d'Union nationale arrivait à terme et le Parlement avait déjà été dissous, donc il n'y avait pas d'autre alternative que d'aller aux élections. Alors, mais il faudrait dire que le problème, c'est que l'opposition au Zimbabwe a aussi participé dans ces élections assez divisées. Pendant qu'ils étaient dans le gouvernement d'Union nationale, la ZANU-PF économiquement prenait des décisions qui démontraient son penchant vers le peuple zimbabwéen pour l'émancipation du peuple zimbabwéen, donc a pris des décisions pour mobiliser surtout la classe moyenne et ceux qui n'ont pas accès à la terre, par exemple. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans l'organisation des élections, mais je pense que la ZANU-PF s'est aussi bien organisée, même sans avoir triché. Si ils ont triché, je pense que la ZANU-PF pouvait toujours gagner, mais peut-être pas avec l'écart que nous avons vu.
Au titre des réactions internationales, on a vu que la SADC et l'Union africaine ont validé ce scrutin, alors que les pays occidentaux émettent de sérieux doutes sur la crédibilité de ces élections. Comment on peut expliquer cette divergence de vue sur le Zimbabwe au niveau de la communauté internationale?
Bon, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Le Zimbabwe a interdit aux observateurs internationaux, notamment européens, de se rendre sur place pour vérifier la sincérité du vote. Il est évident qu'il y a des zones d'ombre. Robert Mugabe est un ancien combattant pour la libération de son pays qui a exproprié des fermiers blancs, et donc il y a des problèmes justement avec l'Occident.
Il y a ce différent qui est là toujours.
Il y a ce différent qui est là.
Carole, alors l'avenir politique maintenant de Morgan Tsvangirai après cette défaite électorale?
Dire que Morgan Tsvangirai...
Est-ce que c'était sa dernière carte là?
Je dirais que non, quand même, il a quand même certaines cartes à jouer, puisqu'il faut quand même dire que Robert Mugabe, on pourrait dire que c'est peut-être son dernier mandat, puisqu'il a déjà 89 ans, bientôt 90. On pourrait imaginer qu'il s'agit là de son dernier mandat, même si au sein du gouvernement d'Union nationale, Morgan Tsvangirai sort affaibli. Il a toujours plusieurs possibilités de rebondir.
Monsieur Claude Kabemba, est-ce que le MDC, le parti de Morgan Tsvangirai, a des chances d'être entendu par la Cour constitutionnelle dans son recours en vue de l'annulation de ces élections?
Je me dis, quand on voit le passé en Afrique, quand le parti d'opposition amène un cas au tribunal qui est lié aux élections, souvent, il ne gagne pas. Et je sais que Morgan Tsvangirai ne va pas gagner. Mais sur ce que Carole vient de dire, sur le futur de Morgan Tsvangirai, c'est important. Mais moi, je pense que Morgan Tsvangirai pourra avoir de problèmes à l'intérieur de son parti politique, parce que ça fait assez longtemps qu'il est à la tête du parti politique. Et je pense qu'il y aura des têtes à l'intérieur qui vont chercher à demander qu'il y ait une démocratie interne et qu'il y ait peut-être un changement de leadership. Et c'est là, moi, je pense qu'il y aura des problèmes. Vous savez, avant d'aller à ces élections ici, il n'a pas organisé le congrès. Et pourtant, il fallait organiser ce congrès-là. Et il n'a pas organisé parce qu'il y a déjà des problèmes à l'intérieur du parti. Là, il y a des challengers à son leadership. S'il se réorganise et garder le MDC dans 5 ans pour affronter la ZANU-PF encore sans Mugabe, ils peuvent avoir de la chance. Qui sait?
Alors Bob, oui, qu'est-ce que vous voulez ajouter rapidement?
Il faut peut-être éviter que l'on ne retombe dans le scénario vénézuélien, c'est-à-dire que Robert Mugabe, s'il ne meurt pas au pouvoir, cède le pouvoir à un dauphin déjà désigné, et que Morgan Tsvangirai ne puisse pas vraiment passer devant la ZANU-PF, c'est-à-dire que on aura encore la ZANU-PF qui va rester longtemps au pouvoir et que Morgan Tsvangirai continuera à être la figure emblématique de l'opposition zimbabwéenne, acceptée surtout par l'Occident.
Surtout que la ZANU-PF contrôle les forces de défense et de sécurité.
Les forces de défense et de sécurité, et sa politique d'expropriation continue de charmer encore les Zimbabwéens.
De nombreux Zimbabwéens. Oui, Carole?
Rapidement, j'aimerais juste ajouter qu'il faut quand même relever qu'avec cette victoire de Robert Mugabe, il ne faut pas oublier qu'il a maintenant le contrôle de tout de l'instrument politique, en quelque sorte.
De tout le pouvoir exécutif.
Mais quand même, le besoin de renouvellement, de changement changement de leadership se fait ressentir aussi bien au niveau de la ZANU-PF qu'au niveau du MDC.
Monsieur Claude Kabemba, on va terminer avec vous. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce gouvernement d'union nationale là, qui a été mis en place depuis 2009 au Zimbabwe?
Oui, d'abord, économiquement, le gouvernement a pu stabiliser l'économie. La croissance est un peu plus rapide en Afrique. Ils ont pu mettre en place une constitution qui est passée par le référendum et qui a pu, à travers cette constitution-là, qu'on a organisé les élections. Et puis, il y a la paix au Zimbabwe. Donc, le gouvernement d'Union nationale a pu réussir et a pu amener le Zimbabwe là où il est aujourd'hui.
Alors, est-ce que tous ces acquis ne seront pas mis en cause avec tout ce qui se passe aujourd'hui? On sait que ceux qui détiennent l'argent émettent des sérieuses réserves vis-à-vis de l'élection de Robert Mugabe.
Pour les Occidentaux, il fallait un changement de régime. Ça fait 10 ans qu'ils cherchent ça. Ils n'ont pas réussi. Vous savez, avec la découverte de gisements de diamants, un des pays qui a une grande réserve de diamants, parmi les pays avec de grandes réserves de diamants, je pense que les Occidentaux qui veulent aussi accéder à cette richesse-là vont compromettre un peu leur jugement sur les élections et sauvegarder leurs intérêts. Je pense d'ici 3-6 mois, on verra un rétablissement peut-être très lent de relations entre les Zimbabwéens, les États-Unis et l'Union européenne. Donc, et puis, la SADC, à travers l'Afrique du Sud, va aussi, malgré qu'il y a un seul pays, le Botswana, qui rejette les résultats des élections, je pense que la SADC va aussi jouer un rôle diplomatique pour essayer de ramener les Zimbabwéens soient acceptés dans la politique mondiale. Ils n'ont pas observé les élections. Ceux qui ont observé les élections ont donné un feu vert, un green light à ces élections-là. Donc, c'est difficile de juger, d'être pris au sérieux quand on n'a même pas observé les élections et on prend le devant pour juger ces mêmes élections-là. C'est une contradiction. Le problème doit être laissé maintenant aux Zimbabwéens, qu'ils puissent chercher à entrer dans un dialogue national pour mettre en place des structures qui prépareront les élections futures.
Merci à vous, Monsieur Claude Kabemba, d'avoir été en ligne avec nous de Johannesburg en Afrique du Sud pour parler des élections générales du 31 juillet dernier au Zimbabwe. Nous savons, Monsieur Claude Kabemba, que vous aimez la musique africaine et quand elle vient surtout de la République démocratique du Congo. Alors, nous vous raccompagnons au sein de cette note musicale signée Papa Wemba, Maria Valencia. Merci et bonne journée à vous, Monsieur Claude Kabemba.
Merci, Raymond. Je vous suis. Maniye na balabala o Bolobela niye ngaya wana kozela mama mi Bolobela niye ngaya wana baby Hoye Ezekeli na yo Maria Valencia eh. Ezekeli na yo Maria Valencia Elobeli na yo Maria Valencia eh. Etamoli na yo Maria.
La suite de cette Afrique en débat, toujours avec moi en studio, Baba Barry et Carole Assignon. On passe à présent à l'interview d'Abelinda Ebinda Ngboko. Et Abelinda reçoit aujourd'hui l'ethnologue burkinabé Vincent Ouattara, auteur du livre « Les secrets des sorciers noirs ».
Il s'agit d'une lecture de l'avenir et du destin des hommes à travers des traces que laisse la souris sur le sol lorsque elle marche. Il y a la divination par l'eau, c'est-à-dire lire l'avenir et le destin des gens à travers l'eau. Il y a la divination par des esprits qu'on appelle le Kinkir Bagré. Il y a bien sûr des équivalences dans la langue locale et qui constituent à une lecture de la société et des hommes et de l'avenir à travers des esprits. Et en fait, il y a le Pilimpik Bagré qui est la divination par les cailloux qu'on appelle aussi papillons. Donc ces différents éléments sont repris dans le texte comme objet d'analyse. On va aussi au niveau de certains préjugés, des préjugés, et aussi au niveau de certaines compositions mystiques pour envoûter par exemple les femmes, pour désenvoûter. Et en fait, on revient sur cette question-là pour les questionner du point de vue de l'objectivité scientifique.
Mais professeur Ouattara, est-ce que toutes ces histoires qui tournent autour de la sorcellerie et des sciences occultes en Afrique, est-ce que tout ce qui est dit autour de ça se révèle exact? Ce sont des réalités ou c'est de la fiction?
Pour moi, c'est une réalité. J'ai grandi en milieu traditionnel, j'ai pu bénéficier d'un certain nombre de savoirs au niveau traditionnel et je sais que ce sont des domaines, le domaine des sciences occultes, c'est un domaine qui est vraiment réel, qui existe. Je crois que même dans les sociétés dites civilisées, Il y a maintenant aussi cette dimension des sciences occultes-là, mais qui est entretenue dans des sociétés secrètes, dans des maisons où on a essayé de conceptualiser, d'en donner un contenu qui frise vers le réel. Je crois que dans les sociétés africaines, nous l'avions aussi à travers des rites initiatiques, à travers des lieux où on allait justement apprendre. C'était des lieux de sources de connaissances, des sources de savoir pour découvrir les traditions, pour découvrir certains secrets de la nature. Et c'est de la réalité. Je crois que l'Afrique des Rêves a même puisé à cette source. Mais puisé à cette source, ce sont des éléments, malheureusement, qu'on ne peut pas mettre à la disposition. Il y a des niveaux de savoir, il y a des types de savoir qu'on ne peut pas mettre à la disposition du citoyen lambda, au risque que ces secrets-là ne soient divulgués et utilisés à mauvais escient.
Et beaucoup de gens, beaucoup de connaisseurs aussi en la matière affirment que aujourd'hui, on utilise ces techniques de la sorcellerie dans la vie politique pour asseoir son pouvoir et quelquefois même pour éliminer les opposants potentiels candidats au fauteuil présidentiel, par exemple. Donc, là, ce sont aussi des réalités que l'on vit.
Oui, mais malheureusement, c'est le côté de l'exploitation, justement, malveillante de ces sources de connaissances-là qui est effectuée par des hommes politiques ou par des hommes qui sont avides de pouvoir, qui est souvent mise en avant aujourd'hui. Nos chefs d'État, nos hommes qui sont avides de pouvoir, cherchent ces sources de connaissances-là justement pour perdurer, pour aussi savoir comment gérer les hommes. Mais malheureusement, on l'utilise dans le mauvais sens. Dans la société traditionnelle, il fallait d'abord que le vieux, le patriarche, découvre votre savoir-être. Comment vous vous comportez dans la société? Comment vous gérez les relations sociales? Avant d'accéder au savoir-faire, le savoir-faire s'acquiert à travers le savoir-être. Malheureusement, aujourd'hui dans nos sociétés, ceux qui veulent facilement réussir utilisent justement ces sources de connaissances-là. Donc, je pense que c'est une réalité actuellement vivante de l'Afrique qui montre que l'Afrique d'hier continue à vivre dans l'Afrique d'aujourd'hui. Mais malheureusement, pas d'une bonne façon.
Vincent Ouattara, auteur du livre « Les secrets des sorciers noirs », il répondait aux questions d'Abelinda Ebinda Ngboko. Carole, vous croyez vraiment à l'existence de ces sorciers noirs, de ces forces occultes?
Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la fiction? Il y a lieu de s'interroger. Mais ce que j'aimerais relever, c'est que c'est vrai, en Afrique, il y a plusieurs rites initiatiques, on en parle, et il y a certains rites qu'il faut faire dans plusieurs communautés. Mais mon sentiment, c'est que ces rites de plus en plus tendent à disparaître, peut-être à cause de la modernisation, de la christianisation. Mais également, il faut relever que, par exemple, je prends le cas du Togo, puisque c'est ce que je connais le mieux, il y a des festivals qui s'organisent de plus en plus pour que les générations futures, pour que les jeunes puissent s'intéresser à ces rites-là, qui ont leur bon côté comme leur mauvais côté.
Bon, est-ce que vous avez peur de ces forces occultes? Vous croyez à ces forces occultes?
Je n'y crois pas, mais en plus, si la sorcellerie existe, pour l'Afrique jusqu'à présent, elle n'a produit que des choses horribles.
Oui, j'aimerais juste ajouter aussi que la sorcellerie, il faut le dire, c'est pas seulement le propre de l'Afrique, ça existe également sur d'autres continents.
Notre coup de gueule à présent, l'Afrique, terre de toutes les croyances religieuses, mais aussi terre de conflits et de beaucoup d'intolérances. Kalilou Diagana.
Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocident les Rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. Chanté en 1998, Alpha Blondy. Les imbéciles des musiciens ivoiriens n'ont pas changé. Ils ont même évolué vers plus de méchanceté, plus de négation de la vie humaine. Après les Angolais, en effet, les Soudanais, les Ivoiriens et d'autres se sont mis au coupe-coupe. Dernier exemple, la centaine de morts des affrontements interethniques en Guinée-Conakry. Un demi-siècle d'indépendance en Afrique, c'est aussi un demi-siècle de tueries, de pogroms, de génocides, de violations massives des droits humains. L'Afrique, continent réputé plus religieux au monde, fait également partie du peloton des têtes des tueries. Les mosquées, les églises, les sectes et autres lieux de culte refusent du monde. Ce qui est proclamé dans cette pléthore de lieux de culte, c'est l'amour du prochain. Et après les prières, le sport favori, c'est la haine du prochain. Et très souvent, du prochain le plus proche. L'humanisme, c'est vrai, n'a jamais été l'apanage des religieux, mais brûler la case du voisin entre deux prières est une curieuse façon de respecter les injonctions célestes. Plus grave, avec Boko Haram au Nigeria, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujaou, et d'autres groupuscules terroristes armés, les massacres sont commis au nom de la religion. Ils invoquent Dieu et agissent comme Satan, avait dit John Kounda Traoré, président du Mali. Plus que le sida, la sécheresse, la pauvreté, la cause du sous-développement de l'Afrique, c'est l'intolérance, la négation de l'autre.
Voilà le coup de gueule de Khalilou Diagana. Coup d'œil à présent sur quelques événements à venir ce lundi 12 août, demain donc. Lendemain d'élections au Mali et peut-être la publication des premiers résultats de la présidentielle de ce dimanche. Le mardi 13, la journée internationale des gauchers. Bob, vous n'êtes pas gaucher. Il y en a tout de même deux ou trois à la rédaction, je crois.
Bien sûr, il y a Constance von Kotze, j'égrène, il y a aussi...
Carole et de Bob.
Aucune idée.
Il y a Anne Le Touzé,
on en a deux au moins.
Voilà, deux gauchers au moins, donc la journée du mardi 13, l'heure est dédiée. Le mercredi 15, le 5e anniversaire de la restitution par le Nigeria de la péninsule des Bakassi au Cameroun. Le vendredi 16, premier anniversaire des tueries des Marikana en Afrique du Sud. L'Afrique en débat. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous Bob Barry et à vous Carole Lassignon d'avoir été là avec moi pour cette émission. Merci également à Barbara Tervigué et à toute l'équipe technique de cette Afrique en débat. L'Afrique en débat, c'est à retrouver dans notre podcast sur notre site internet dw.de/français. L'Afrique en débat, c'est tout le dimanche à 12h05 temps universel. Bonne journée et à dimanche prochain.